Radio Barque, nous reprenons l'antenne pour une deuxième partie avec notre invité du jour, le sénateur de l'Aude, Sébastien Pla. On s'était quitté, monsieur le sénateur, sur un début d'explication d'une loi que vous avez faite aboutir sur la protection des mineurs. Alors, ce que j'aimerais savoir peut-être, c'est comment vous est venue cette idée-là et comment vous êtes arrivé à travailler avec une ancienne patineuse, parce que ce n'était pas votre spécialité.
Ah non, moi je suis plutôt rugby, mes sports quand même. Comment la loi est arrivée là? Mais écoutez, ça fait quelques années que je suis
Vous aviez ça en tête quand même.
Oui. J'avais en tête, parlementaire, au-delà d'examiner des textes de loi, a la possibilité d'en déposer et donc de changer les choses. L'objectif, et moi en tout cas je le vois comme ça, l'objectif d'un élu national, c'est d'essayer d'améliorer le quotidien et la vie des gens. Et en particulier sur cette question des violences sexuelles, qui est un sujet pas simple à aborder, notamment sur les mineurs. J'ai pas mal œuvré aux côtés d'associations dans mes précédentes vies d'élu. Et lorsque j'ai été élu sénateur, j'ai promis à ces associations-là que j'allais les accompagner d'un point de vue législatif pour... permettre de mieux lutter contre ce phénomène qui était un phénomène qui était sous le coup d'une omerta extraordinaire.
C'est-à-dire que vous étiez très conscient du problème alors.
Tout à fait, j'étais très conscient.
Vous aviez tous les éléments en quelque sorte.
J'avais connaissance, y compris dans mon entourage, de jeunes enfants qui avaient été victimes d'abus sexuels dans leur club sportif. Bord d'attouchement, donc c'est un sujet qui me touchait personnellement. Alors effectivement, comment prendre ce sujet par le bon bout? Donc j'ai eu la chance de travailler avec des avocats qui accompagnaient les victimes dans ces associations, qui avaient un certain nombre de propositions à faire pour améliorer sur le contrôle des éducateurs sportifs qui n'étaient pas faits ou très peu faits depuis 2020. 2020 pourquoi? Parce qu'en 2020, effectivement, la championne olympique de patinage artistique, Sarah Bidbol, a écrit un bouquin qui a fait l'effet d'une bombe, qui a été très médiatisé, et ça a été vraiment la première sportive de haut niveau à avoir été crédibilisée, où son récit a fait un électrochoc en fait au niveau médiatique et au niveau parlementaire, parce que jusqu'à présent, les grands sportifs qui avaient été victimes, je pense à Isabelle de Mongeau, la tennisman, qui avait parlé dans les années 2010, personne ne l'avait cru, les médias l'avaient pas couvert, il y avait une omerta autour du sport.
Et tout d'un coup, alors c'est un peu le MeToo du sport.
Et en fait, elle a été à l'origine du MeToo du sport, et puis le MeToo est arrivé après. Et donc j'ai pensé à elle de suite. J'écoute, si tu veux avancer sur ce texte, il faut avoir des grands témoins, travailler avec des grands témoins. Donc écoute, c'était un simple message par mail, hein, lui expliquant mon travail, mes idées, les orientations que je voulais mettre en œuvre, et elle acceptait de suite de m'accompagner. Elle m'a ouvert les portes aussi de tous ses amis sportifs du monde artistique, médiatique, qui ont de suite dit bingo, on va accompagner le sénateur Pla, pour plusieurs raisons. L'avantage, c'est que ce sénateur est pas connu, n'a pas été ministre, n'a pas vraiment d'opposant politique.
Ah oui, c'était pour...
Donc on peut parier sur lui. Sur ce côté un peu vierge de tout problème. Bon, j'ai pas un engagement très très marqué, du coup c'est plus facile. Et puis c'est un homme. Jusqu'à présent, les sujets de droits des femmes, les sujets en direction des enfants étaient des sujets chasse gardés des parlementaires femmes ou des ministres femmes.
Oui, donc ça a apporté une crédibilité supplémentaire.
Totalement, en fait. Moi au départ j'y croyais pas, et en fait c'est eux qui avaient raison. On dit, mais écoutez, on parie sur ce sénateur-là du département de l'Aude, parce que pense qu'avec lui, ça va arriver au bout. Et effectivement, grâce à eux, j'ai pu mener mon travail jusqu'au bout. L'idée était en collaboration avec le ministère des Sports, qui commençait à mettre en place des outils techniques pour libérer la parole. Il y a une cellule aujourd'hui qui existe, Signal Sport, où les enfants et les parents d'enfants victimes peuvent signaler des comportements déviants des éducateurs. Et derrière, la direction régionale des sports dirigeant des enquêtes administratives pour essayer de voir si l'éducateur est à peu près clair. Et ont mis en œuvre aussi le ministère, ce que l'on appelle contrôle d'honorabilité, qui normalement est obligatoire. Toute personne qui exerce avec un public jeune et des enfants doivent remplir chaque année un certificat dans lequel ils doivent faire état de leur casier judiciaire, ce qui permet de déjà au départ, dans un premier filtre, d'écarter les personnes qui ont des antécédents déviés en direction des enfants. Si ce n'est que le problème, pendant 2 ou 3 ans, de 2020 à 2023, il y a eu très peu de signalements et très peu de procédures en direction de ces éducateurs. Souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une affaire dans un club, elle est vite étouffée par la direction.
Mais c'était déjà le cas précédemment.
Avant, on fait partir l'éducateur. On le limoge pas, il s'en va ailleurs, il recommence ailleurs.
Oui, oui, voilà. Oui, on résolvait pas le problème.
Du tout. On repoussait le problème ailleurs.
Oui, oui.
Et pour ça, pour vraiment lutter efficacement contre ces violences-là, c'est l'affaire de tous, et en particulier des responsables de clubs. Donc on a voulu renforcer le contrôle d'honorabilité, et on a voulu rendre responsables pénalement les dirigeants. Et les dirigeants avaient besoin aussi d'outils pour pouvoir mieux lutter contre ces problèmes-là, parce que lorsque vous avez une affaire qui sort dans votre club, ben évidemment, l'image du club s'en sort ternie.
Chacun essaie de botter en touche, si je puis dire, comme on dit dans le rugby.
Les parents vous font plus confiance et laissent plus les enfants. Donc, l'intérêt, c'est que les enfants, les parents puissent laisser les enfants sans se poser trop de questions et que les clubs aient une image probe de ce côté-là. Donc, ce texte aurait pu ne pas être voté pour la bonne et simple raison que le jeu politique fait que quand vous n'êtes pas dans la majorité, bah, il est difficile d'obtenir le vote des oppositions.
Mais
vous voyez à l'Assemblée nationale, ils n'arrivent pas à s'entendre. Nous, au Sénat, on a une culture du compromis qui nous permet de temps en temps, même très souvent, d'arriver, quelles que soient nos divergences politiques, au compromis. Alors c'est vrai, c'est plus facile quand vous n'avez pas d'élus extrêmes ou des groupes politiques avec des élus qui sont dans une posture très claire.
Aujourd'hui, donc, cette loi existe, elle est votée, elle est opérationnelle en quelque sorte.
Elle est opérationnelle, elle a été votée au Sénat à l'unanimité, elle a été votée à l'Assemblée à l'unanimité, elle aurait pu ne pas être votée simplement par l'abstention d'un groupe politique.
Ce qui n'a pas été le cas.
Ce qui n'a pas été le cas et qui aurait repoussé la mise en œuvre plus tard. Donc, le décret d'application est prêt. Depuis la promulgation de la loi, il y a eu 10 fois plus de signalements à Signal Sport, parce qu'en même temps, on a parlé du phénomène.
Le décret n'est pas encore paru.
Il y a deux décrets. Le décret d'application qui fait porter la responsabilité pénale du responsable de club n'est toujours pas signé, pour la bonne et simple raison que vous avez remarqué, à Nana, nous avons changé 3 fois de ministre des Sports.
Oui.
Donc le précédent devait signer le décret au mois de décembre, voilà, et malheureusement la motion de censure est passée par là, donc j'ai rencontré la nouvelle ministre qui s'est engagée à le signer. Donc c'est une affaire de 2 jours là.
Oui, ah bon, c'est
déjà
du peu. Alors.
Une grosse partie de la loi est entérinée.
Et déjà opérationnelle.
Tout à fait.
Ce qui fait que monsieur Sébastien Pla, donc vous faites partie de ces rares sénateurs de l'Aude qui ont fait une loi en quelque sorte.
Ben c'est une fierté, puisque dans toute l'histoire de la République, députés, sénateurs aux doigts confondus, seul le sénateur Courteau, aucun député n'a fait la loi, seul le sénateur Courteau a fait la loi dans le cadre de l'égalité homme-femme. Donc je suis le second, j'en suis très fier, et je suis fier parce que je remercierai jamais assez à la fois Sarah Abitbol et tous les gens qui nous ont aidés au niveau médiatique, notamment la presse écrite, et je remercie surtout les grands électeurs, parce qu'il y a 4 ans en arrière, lorsqu'ils m'ont fait confiance en votant à quasiment 70% pour moi, je pense qu'ils savaient pas, et moi non plus, qu'ils allaient voter pour quelqu'un qui allait faire avancer les choses et protéger les enfants. Si on m'avait pas voté pour moi, je suis pas persuadé que cette loi, ce texte, aujourd'hui entre en vigueur et permette d'éloigner les prédateurs sexuels du monde sportif. Donc, c'est une victoire pour moi, une fierté, mais c'est surtout la victoire des élus aux doigts, tout parti confondu, qui m'ont fait confiance, parce que c'est C'est la réalité des choses.
Voilà.
Et ça, je leur en serai reconnaissant toute la vie.
Et c'est là où, finalement, on démontre, pour ceux qui en douteraient encore, l'utilité du sénateur. Et ça remet les pendules à l'heure, d'une certaine
bien
façon.
Bien sûr, hein. Puisque typiquement, sur une loi comme ça, on a de plus en plus d'enfants qui brisent l'omerta, on a de plus en plus de signalements, et surtout, on a de plus en plus de condamnations pour violence sexuelle dans le sport. On a multiplié par 3 les procédures administratives et les procédures pénales. Donc, on a vraiment durci le mécanisme. Maintenant, il faut continuer à en parler, à travailler, à libérer la parole et aller plus loin. Et on va aller plus loin puisque le milieu de la culture nous a contactés pour voir comment ils pouvaient eux aussi de leur côté
étendre
le dispositif aux écoles de musique et étendre le dispositif en fait à l'ensemble des secteurs de la société. Donc quelque part cette petite loi, alors on va dire une loi de plus, ben justement à un moment donné il faut faire des lois pour pouvoir mettre en place des sanctions. Donc il y a des lois utiles, des lois moins utiles.
Oui, celle-là elle est éminemment utile. C'est une loi qui remplissait un vide quoi, véritablement.
Tout à fait. Oui, un grand vide juridique qui permettait à l'Omerta de fonctionner tranquillement et de continuer. On le voit encore avec l'affaire Bétara, mais ce qui se passe, c'est quand même, on est au 21e siècle, on ne peut pas admettre qu'il y ait des violences sexuelles et des viols de gamins dans des cercles fermés, des associations, des écoles. Moi, il est hors de question. Moi, je me battrai toute ma vie tant que je serai parlementaire pour protéger ce qu'on a de plus précieux, nos enfants.
Alors, Sébastien Plat, on vient de voir donc l'utilité au niveau national, législatif, d'un sénateur. Quand on est sénateur, on est aussi sénateur d'un territoire. Vous êtes sénateur de l'Aude. Et votre rôle, c'est souvent de jouer l'intermédiaire entre alors, votre territoire et puis le pouvoir qui est à Paris. Est-ce que vous avez quelques exemples récents de succès aussi, de choses qui ont abouti? Parce que tout n'aboutit pas, peut-être.
Déjà, la manière dont je vois mon mandat et j'exerce mon mandat. Moi, je suis un sénateur du premier groupe d'opposition du Sénat et à l'opposition gouvernementale. Mais je travaille avec la majorité et avec le gouvernement sur les sujets qui permettent de faire avancer la société et qui permettent d'accompagner les territoires. Donc, je suis un sénateur qui, quand il va à Paris, il va pour témoigner de ce qu'il vit sur le terrain. Je n'ai pas de permanence, je suis sur le terrain toute la semaine. C'est-à-dire que je suis à Paris du mardi au jeudi, et le reste du temps, je m'en vais rencontrer les maires dans les collectivités, rencontrer les organisations professionnelles, les groupes constitués. Parfois, on me demande justement de venir pour me sensibiliser sur certains sujets. Et à partir de là, je me nourris des problématiques du territoire de l'Aude. Et ces problématiques-là, je vais les témoigner lorsqu'il y a un texte de loi, lorsqu'il faut poser des questions écrites ou orales à un ministre. Je me fais l'intermédiaire, quelque part, le lobbyiste des problèmes du département et des organisations professionnelles et des élus du département de l'Aude. Donc, on doit examiner un texte, par exemple, sur la question de la désertification médicale, à la lumière de ce que j'entends sur le terrain, des projets mis en œuvre sur le terrain, je témoigne au national et j'essaie de prendre des décisions et en tout cas me positionner dans des décisions de loi qui vont accompagner ce que je vis sur le terrain. Je fais pareil au niveau viticole, quand même, viticulture aujourd'hui est en grande difficulté. On a un territoire qui vit essentiellement, en tout cas, d'un point de vue agricole, sur ce pilier-là. Eh bien, au niveau national, je témoigne et j'essaie de faire avancer des dispositifs qui accompagnent les vignerons dans le cadre de la loi. C'est comme ça que je vois mon travail de sénateur avec beaucoup de réussite, puisque au Sénat, nous sommes écoutés, nous nous écoutons. Et les représentants du territoire, en tout cas des territoires ruraux, arrivent à se mettre d'accord avec d'autres représentants de territoires ruraux, pas forcément du même parti politique, pour faire avancer les mêmes questions et les mêmes projets. Sur l'Aude, il y a énormément de problèmes liés à désertification médicale, mais on a aussi de grands projets économiques, je pense au port de Port-la-Nouvelle,
le développement des zones. Lui est sur les rails, quand même.
Lui est sur les rails, mais pour lequel il faut continuer à œuvrer et à travailler avec le ministère des Transports et aussi de l'Énergie sur ces questions-là pour accompagner son développement. Donc, on intervient sur tous les champs, en fait, d'activité du territoire, à la fois le social, les questions du logement, à la fois le champ de l'énergie, du développement économique et de l'accompagnement aux communes. Voilà. Moi, je me fais un point d'honneur, ayant été maire d'une petite commune de 150 habitants, de soutenir au maximum l'intégrité financière des collectivités, en particulier des plus petites communes, et l'intégrité des représentants de ces communes, les élus, qui souffrent beaucoup en ce moment d'agressions et qui ont besoin d'être accompagnés par la représentativité nationale.
Voilà. Là aussi, il y a le soutien alors, psychologique et moral, peut-être, en
les
plus.
Deux.
Et politique, cela va de soi.
Les deux.
On marque, Sébastien Pla, une deuxième pause.